Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Eh bien, nous continuons notre réflexion sur la culture générale que je fais à partir de mon livre « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années, mais toujours disponible en librairie. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, nous en sommes toujours à ce fameux chapitre 10, les représentations religieuses de ce livre. C'est un chapitre très important et très long, hein. Et la dernière fois, nous avions vu qu'il y avait justement dans le monde chrétien une tendance à fuir le monde, à s'en séparer. Et cette tendance, finalement, la caractérise au moins la modalité catholique et peut-être orthodoxe aussi, mais pas du tout la vision protestante du christianisme. En effet, alors voyons, quel est le statut du monde? Comment un chrétien voit-il le monde aujourd'hui? Est-ce qu'il le voit comme un lieu d'exil ou comme une terre promise? Il y a une différence entre un catholique romain et un protestant américain, par exemple. Le premier, le catholique romain, va maintenir le célibat des prêtres, qui est un reste d'ancratisme, c'est-à-dire un refus justement de la chair, hein, bon, et puis incratéia, c'est la continence, hein. Dans le catholicisme romain affirme le péché originel que nous devons à saint Augustin et une certaine prudence vis-à-vis du progrès historique. Tandis que le protestantisme, hein, eh bien, assume la vie et le monde, je dirais de façon beaucoup plus optimiste et plus fidèle peut-être à l'esprit, alors pas biblique, mais à l'esprit du Premier Testament. Nous avons parlé de la soumission à Dieu lors de la dernière émission, mais le paradoxe pour ce qui est du mouvement protestant, c'est que ces idées à l'origine très angoissantes, voyez ce que disait Luther à propos de la grâce toute puissante, hein, la réforme met l'accent justement sur la grâce et invalide la puissance des œuvres elles-mêmes, hein, donc ces idées semblaient régressives et pessimiste. Et comment se fait-il qu'elles aient donné, par exemple, dans le cas des protestants américains, états-uniens, qu'elles aient donné une attitude faite de dynamisme, d'esprit d'entreprise et finalement de confiance en soi? Comment cela peut-il se faire? Eh bien, je crois le capitalisme, par exemple, s'est développé principalement dans ce cadre-là. L'homme occidental s'y est réconcilié totalement avec le monde. Alors, l'explication de ce paradoxe, d'abord, c'est peut-être que l'individu s'est émancipé de tous les pouvoirs, appareils ou institutions qui pesaient sur lui. Et Max Weber, dans son livre essentiel « L'éthique protestante » et l'esprit du capitalisme a étudié cette mutation. Mais aussi on pourrait dire que de toute façon nos actions ne nous sauvent pas, hein, comme le disaient à l'origine Luther et Calvin, hein, mais à ce moment-là, que faire pour savoir si l'on est élu, pour savoir si on a la grâce? Eh bien nous pouvons alors agir et nous verrons en fonction du résultat qui est dévolu à nos actions si nous sommes élus ou non par Dieu. Donc en quelque sorte cette attitude au départ qui était désespérante, nos actions ne peuvent pas nous sauver, seule la grâce nous sauve, aboutit à une attitude dynamique. Eh bien, je ne sais pas si je suis sauvé, je ne sais pas ce qu'il en est des desseins de Dieu à mon égard, eh bien je vais agir. Et finalement, si je réussis, cela veut dire que Dieu m'a accordé sa grâce, que Dieu m'a élu en quelque sorte. Donc la réussite vaut absolution, sanctification, en quelque sorte, justification, voilà. Il y a justification par sola gratia, par la seule grâce, d'accord, mais on voit les résultats, justement, des buts de Dieu à notre égard, en agissant, hein. Et finalement, cette attitude amène à considérer, justement, que le loser n'a pas bénéficié de la grâce, le perdant, alors que celui qui réussit a cette grâce. Alors, si on prend par exemple le jansénisme, qui est un mouvement qui semble avoir les mêmes présupposés, eh bien, il n'est pas du tout dynamique comme cela, pas du tout. Hein. La grâce seule nous sauve, mais vous voyez Pascal, vous voyez aussi un certain Racine dans des pièces que l'on a qualifiées de jansénistes, eh bien, je suis paralysé car je ne sais pas si Dieu me sauvera. Il y a une prédestination absolue. Alors que pour un protestant, d'accord, c'est le même présupposé, mais le protestant va dire, eh bien, je voudrais savoir à quoi m'en tenir, donc je vais agir pour savoir si j'ai la faveur de Dieu. Donc voilà, je dirais que ces attitudes-là me semblent très très importantes parce que les faits de civilisation, hein, on parle du dynamisme états-unien par exemple, en proviennent. Totalement, on dit que Sartre, revenant des États-Unis, aurait dit « Je ne m'entendrai jamais avec un peuple qui ne croit pas au péché originel ». Vous voyez. Donc, il faut savoir, justement, voir le soubassement qui, ici, est religieux, de certaines attitudes. Alors, prenons justement ce cas de la soumission. Hein. Bien sûr, l'Ancien Testament, le Premier Testament, connaît la loi rythmique, hein, que vous avez aussi dans la sagesse extrême-orientale. Bon, pour la pensée et la sagesse chinoise, par exemple, il y a deux principes complémentaires et alternants. Le principe yin, qui représente la passivité, le repos, l'accueil des choses, et le principe yang, qui représente l'activité, la dépense d'énergie, la marque imprimée sur les choses. Hein. Les polarités essentielles de l'être humain peuvent se ramener à ces deux grands principes. L'intérêt et l'union nécessaire que les Chinois voient dans ces deux principes. Voyez l'idéogramme du Tao qui est un cercle partagé par un S en deux parties égales, l'une blanche et l'autre noire. Hein. Il y a un petit cercle blanc dans la moitié noire et un petit cercle noir dans la moitié blanche. Le principe yin, le principe de passivité, le principe yang, le principe d'activité, s'interprénètrent et s'unissent. Il y a en germe l'activité dans le repos, et dans la nuit, il y a en germe le jour. Dans la femme, il y a en germe l'homme, dans l'homme, il y a en germe la femme, etc. Chronologiquement, il y a des successions, mais métaphysiquement, il y a coexistence. Le Tao, ou la voie, c'est la compréhension de cette alternance qui est gage de complétude. Et la Chine est un peuple essentiellement agricole, et ses rythmes sont évidemment observés dans la nature. Le soleil suit la lune, le vent suit le nuage, et après il y a la pluie, et puis de nouveau le soleil suit, etc. Et réaliser en soi le Tao, c'est accepter ce déroulement inéluctable des choses, comme dans le stoïcisme ancien, non pas dans la vision moderne, athée du stoïcisme, dont j'ai parlé à propos de Vigny, par exemple, dans La mort du loup, hein. Dans le stoïcisme ancien, il faut chérir son lot, il faut aimer son destin, amor fati, hein, et le destin est rythmique. Alors, outre le Tao que vous avez dans le Tao Te King de Lao Tzu, la voix, hein, vous avez aussi le Yi King, ou le livre des transformations, qui est une combinaison d'hexagrammes superposés par paires, hein, d'où la même chose, principe d'action, principe repos, principe de repos, principe de passivité. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de la sagesse chinoise à propos de la Bible? Eh bien, je dirais que il n'y a pas de chose simple. Dans le Premier Testament, il y a aussi cette loi rythmique. Il suffit de lire, par exemple, le livre de Coëlette, que l'on appelle aussi l'Ecclésiaste. Hein. Il y a un temps, dit l'Ecclésiaste, pour naître, et il y a un temps pour mourir, un temps pour être heureux, un temps pour pleurer. Rien n'est nouveau sous le soleil, hein. Nil novi sub sole, comme on dit dans la Vulgate. Hein. Cela reprend un peu ce que disait Lucrèce dans le De Natura Rerum, et Adem sunt omnia semper. Toutes choses sont toujours identiques. Donc, je dirais que dans ce livre de l'Ecclésiaste, nous avons là le fait d'assumer les rythmes qui se succèdent, un temps pour, etc. Hein, et cette sagesse que l'on dévolue la plupart du temps à l'Orient, elle existe aussi en Occident, dans ce livre en particulier, et aussi dans les livres dits sapientiaux, hein, les livres de sagesse. Quand le fond des choses, c'est une espèce de nihilisme, puisque le rédacteur de l'Ecclésiaste nous dit « Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Hein, mataiotes, mataioteton, panta mataiotes. » Souviens, « Vanitas, vanitatum, et omnia vanitas. Hein, » toute chose, voilà, Chouraki traduit ça par « buée des buées, tout n'est que buée. » Alors finalement, on dira que la part orientale de la Bible rejoint hein, les sagesses extrêmes orientales, hein, et bien sûr, l'idée ici est celle d'une soumission, une soumission à ce qu'on pourrait appeler le destin. Les anciens disaient « Dukunt volentem fata nolentem traunt », c'est-à-dire le destin conduit celui qui s'y plie et entraîne celui lui qui ne s'y plie pas. Hein. Dans les psaumes nous disent « L'Éternel est mon berger, il me conduit vers les verts pâturages ». Donc il y a une espèce d'hétéronomie, la loi est extérieure à l'homme, l'homme doit s'y soumettre. Hein. Donc là il y a une attitude de soumission, d'acceptation. Hein. Et anthropologiquement, cette attitude se résume dans ce que l'on pourrait appeler un fiat, que cela soit, hein, que cela soit, que la volonté du destin ou la volonté de Dieu soit faite. Il y a un fiat identique dans le Notre Père, dans la deuxième demande, hein, faite soit ta volonté, après sanctifié soit ton nom, faite soit ta volonté, fiat voluntas tua. Il y a un fiat analogue dans la réponse de Marie à l'ange lors de la scène de l'Annonciation. Marie ne comprend pas ce que vient de lui dire l'ange, hein. L'ange lui dit un enfant naîtra de toi, il sera appelé Emmanuel, etc. Mais Marie ne comprend pas, mais elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Fiat c'est Cundum verbum tuum, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, aussi bien le fiat du Notre Père que le fiat de la scène de l'Annonciation, finalement, mène à une attitude d'acceptation des choses, céder à ce qui nous dépasse et toute l'intelligence de l'homme. Hein. Donc, cette attitude, vous l'avez aussi dans l'islam, hein, qui veut dire soumission, mais aussi, on l'oublie tout le temps, l'islam, c'est aussi la paix, salam, que l'on trouve dans la soumission, hein. Soumission et paix trouvée dans cette soumission. Alors bien sûr, le djihad que l'on interprète comme un combat agressif contre les mécréants, eh bien doit être interprété selon beaucoup de théologiens musulmans comme un combat intérieur. Hein. Et en fait, cette idée de combat intérieur est beaucoup plus intelligente, bien sûr, beaucoup moins nocive, évidemment. Hein. Mais la soumission à ses qualités. Nous avions parlé par exemple du chêne et du roseau. Hein. Le roseau plie, mais il n'est pas déraciné, alors que le chêne, à force de lutter, lui est déraciné. Hein. Donc le destin, finalement, est quelque chose de tout puissant à quoi l'on ne peut rien. Et même chez les Grecs, qui ont une civilisation humaniste, eh bien, Dieu lui-même ne peut pas faire ce qui a été, que ce qui a été n'ait pas été. Hein. Par exemple, Jupiter, comme disent les mythographes latins, ne peut ressusciter son fils Sarpedon. Hein. Il ne peut pas faire tourner le monde à l'envers, comme dans Superman. Quand Superman tourne autour de la Terre pour la faire tourner en sens inverse de sa rotation habituelle. Donc, si Zeus ou Jupiter, pour les Romains, ne peut pas ressusciter son fils Sarpedon, eh bien, ça veut dire qu'au-dessus des dieux eux-mêmes, il y a une part Eir Marménée de Moira, hein, la part qui est la part du destin. Nous ne pouvons rien contre ce lot qui est le nôtre. Voilà, alors qu'en est-il justement de cette part orientale de la Bible qui nous modèle, bien sûr, même en Occident? Eh bien, je vais parler ici du livre de Job. Le livre de Job résume l'attitude de soumission, si on regarde la fin de ce livre. Se soumettre à ce qu'on ne peut pas comprendre. Ce livre de Job est la limite absolue au dynamisme que pouvait autoriser le tout début de la Genèse. Et d'un certain point de vue, il est ce qui, dans l'âme juive, tourne le dos à l'humanisme. Vous connaissez tous l'histoire, hein. Job est un juste prospère qui passe ses journées à remercier et à adorer Dieu. Alors Dieu parie avec Satan que s'il enlève à son serviteur fidèle toutes les marques de sa prospérité, Job continuera à l'adorer. Alors le pari est tenu et d'un seul coup, santé et richesse sont enlevées à Job. Alors Job ne comprend pas le pourquoi du malheur qui le frappe. Il a beau chercher en lui-même, il ne voit pas de faute qu'il aurait commise et qui justifierait son malheur. En effet, dans la mentalité primitive, on voyait un lien entre malheur et culpabilité. C'est ce qu'on appelle la vieille théologie de la rétribution. C'est cette théologie de la rétribution, très ancienne, à mon avis assez barbare, mais enfin bon, elle existe encore, et elle existe dans notre langage. Quand nous disons « mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ?» Eh bien, nous participons de la théologie de la rétribution. Nous pensons qu'il y a un lien entre le malheur qui nous frappe et une culpabilité que nous avons, qui est de notre fait. Hein, voilà. Alors, l'énigme du livre de Job, c'est celle du juste qui est frappé injustement, c'est celle du malheur innocent. Malgré ses amis, malgré aussi sa femme qui pense qu'il a pu commettre une faute, Job s'affirme innocent. La persécution de Dieu, pense-t-il, n'a aucune justification. Donc le problème qui est posé est celle de la justice de Dieu, comme on le dit à partir du grec, de la théodicée. Hein. On retrouve l'idée d'une injustice manifeste faite à Dieu dans l'épisode d'Abel et de Caïn. En effet, Caïn avait offert son sacrifice sans mauvaise pensée, malgré ce que dit le catéchisme, hein, et Dieu lui a fait une injustice. La faute de Caïn, alors, c'est de ne pas avoir reconnu qu'il avait tué son frère Abel. Caïn, où est ton frère? Eh bien, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et puis aussi, de s'être découragé trop vite, puisque Dieu lui avait dit, si tu agis bien, est-ce que tu ne te relèveras pas? Mais si tu n'agis pas bien, méfie-toi, le péché est déjà tapis à ta porte. Donc Caïn avait toutes les raisons de ne pas comprendre justement la préférence donnée par Dieu à Abel, et ces deux fautes sont celles que je viens de dire, hein, éluder sa responsabilité et se décourager trop vite. Donc ce problème de la théodicée, il est éternel. Si Deus est, tum de malum, comme on dit en latin, c'est-à-dire si Dieu existe, d'où vient le mal, hein. Alors on cherche quelle est la culpabilité que l'on a, qu'est-ce qu'on a pu faire de mal. Mais les amis de Job lui disent, mais tu as fait ceci, tu as fait cela. Job dit non. Hein. Sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu as pu faire pour... Eh ben non. Alors la femme de Job va même jusqu'à lui dire, maudit Dieu et meurs, puisque tu n'as rien fait de mal, tu n'as qu'à maudire Dieu et mourir. Alors certains disent que maudit Dieu est un euphémisme pour dire bénis Dieu. En fait, ça serait plutôt une antiphrase. Hein. Bon, mais je crois que Woody Allen disait dans Whatever Works, il me semble, dans son film, qu'il était du côté de la femme de Job, qui disait à son mari, maudit Dieu et meurt. Il y a un très beau tableau de Georges de la Tour, Job raillé par sa femme, qui se trouve au musée de Colmar, je trouve, ou d'Épinal, je ne sais pas, à vérifier, vous voyez. Donc c'est ça me vient en mémoire maintenant, mais ce geste de la femme de Job est-il un geste d'encouragement ou un geste de défi? Vous voyez, maudit Dieu et meurt. Alors Job est prêt à maudire Dieu, et alors Dieu apparaît à Job dans toute sa gloire et sa puissance pour, comme on dit aujourd'hui, l'impressionner. Ouais. C'est ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Une manifestation de Dieu. C'est aussi une kratophanie, c'est-à-dire une manifestation d'une force superlative. Hein. Qui es-tu, dit Dieu mortel, pour discuter contre mes desseins, contre mes buts, hein. Cette hiérophanie, alors hiérophanie est autre mot, hein, manifestation du sacré, hein, se trouve dans toutes les religions primitives, hein, aussi. Alors Dieu, dit-il à Job, a créé tout ce qui existe, et les accidents du relief, les grands animaux, comme le crocodile, comme l'hippopotame. Alors Job, il est impressionné, voilà, comme on dit aujourd'hui. Il se sent tout petit à côté de cela, et alors il se repent d'avoir murmuré contre Dieu, et il bénit Dieu en disant « Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué ». Alors bien sûr ça se finit bien puisque le dernier, vu la soumission de Dieu, voilà, l'essentiel c'est la soumission, je parlais de la soumission au destin, au fatum, hein, la soumission. Donc la soumission de Dieu vaut à la soumission de Job à Dieu vaut à Job d'être restauré dans sa richesse initiale, il recouvre la santé, dans sa prospérité initial, finalement, lui revient. Alors, on comprend alors qu'il s'agit d'une épreuve, un peu comme celle que Dieu a donnée à Abraham, en lui ordonnant de sacrifier son fils Isaac. Alors, pour ce qui est de l'intertextualité, c'est-à-dire le fait que les textes se renvoient les uns aux autres, hein, il faut noter qu'il y a une reprise du livre de Job dans le prologue du Faust de Goethe. Alors, que penser de cette soumission de Job? Fritz Zorn, dans Mars, critique la théophanie, hein, cette espèce de light show, hein, où Dieu apparaît en majesté. Il dit « Créer le crocodile, l'hippopotame, il n'y a pas de croix sans vanter. Hein. » Les grands monstres comme le Léviathan, le Béhémoth, etc. Bon, est-ce qu'on peut vraiment se vanter d'avoir créé ces monstres carnassiers, ces monstres prédateurs? Que veut dire ce texte de Job? Il signifie à l'évidence que l'homme n'a pas tous les éléments en possession de sa pensée ou de sa raison pour juger d'une situation, que l'homme doit être humble devant un mystère qui ne lui est pas accessible. Il doit aussi se résigner à ce qu'il a, il doit compter avec le transitoire et dans la vie être passant. C'est ce que dit Job à la fin. « Je suis sorti nu du ventre de ma mère et je retournerai nu là-bas, c'est-à-dire après ma mort, hein, dans ma tombe. Hein. » L'homme naît nu et il meurt nu. La soumission est totale ici. Hein. Elle compense cette soumission, me semble-t-il, le crédit qui est fait à l'homme dans la Genèse, dont nous avons parlé lors des émissions précédentes. On lit au tout début « Remplissez la terre et soumettez-la ». Donc là, vous aviez une largesse, une prodigalité de Dieu, hein, et finalement une absence totale de négativité. Mais dans le cas de Job, hein, l'injustice qui lui est faite ne peut pas être comprise. Donc je dirais qu'il y a là les deux pôles antagonistes et complémentaires. Premièrement, le pôle de la Genèse qui invite l'homme à agir et à un dynamisme. Et deuxièmement, le pôle incarné par Job qui est la partie orientale ou extrême orientale de la Bible. Hein. Alors d'une part, en vertu du premier pôle, l'homme a un rôle particulier à jouer sur la terre, une place d'élection qui lui est dévolue, ce qui n'existe pas dans les sagesses extrêmes orientales, à commencer par le taoïsme. Mais d'autre part, Job nous dit que l'homme est tout petit ou infime devant Dieu, devant les forces du sacré, ce qui correspond bien à une donnée de la pensée orientale ou extrême orientale, où le destin est tout puissant. Alors bien sûr, à propos de l'activisme autorisé par la Genèse, je parle du premier récit de création, le récit que l'on appelle Élohiste, hein, où Dieu est nommé Elohim, hein, le deuxième récit qui commence au début du chapitre 2 de la Genèse, 2-4b je crois, hein, donc c'est un récit dit Yahviste, parce que Dieu est appelé Yahvé, hein, le tétragramme que l'on prononce donc Adonai, hein, et c'est un récit beaucoup plus sombre. Alors l'Occident admet est-il totalement le fatalisme? Cette idée d'une toute-puissance de Dieu fait de Dieu une nouvelle figure du destin. Alors nous le voyons ainsi avec nos yeux occidentaux, hein, et nous sommes influencés par la vision de Job, hein. Si Dieu sait tout, alors regardez ce que dit le Coran, hein, il me semble, ou en substance, hein. Dieu sait tout, voit tout, que pouvons-nous? Une fourmi noire sur une pierre de marbre noir dans la nuit la plus noire, le regard d'Allah, de Dieu, la voix, vous voyez. Donc le Coran reflète cette attitude de soumission. Mais je répète la paix que l'on trouve dans la soumission. Hein. Islam, soumission, mais salam, la paix, c'est la même racine. Hein. C'est un acte libre par lequel on se soumet à la volonté de Dieu. Hein. Et le lien avec le judaïsme et le livre de Job est évident. Hein. À nous, le monde de musulmans semble totalement fataliste. Alors, les musulmans, c'est vrai, disent toujours, dans tout ce qu'ils disent, si Dieu veut, hein, si Dieu veut, accompagne toutes les phrases d'un musulman, même les plus ordinaires. Je viendrai demain si Dieu veut. Hein, bon. Et Inch'Allah, hein, si Dieu veut, Mektoub, c'était écrit, résume pour nous une attitude totalement fataliste. Notez que pour l'islam, la conception du destin, c'est écrit, hein, et scriptural, c'est écrit dans un grand livre, et non pas verbal comme chez les latins. En effet, fatum, le destin en latin vient de forfari, qui veut dire parler. Hein. Cela correspond à deux états qui se succèdent chronologiquement dans l'histoire des cultures. L'oralité à Rome, hein, et l'écrit avec l'islam. Hein. Schopenhauer nous dit dans son traité du libre arbitre, hein, nous devons considérer tout ce qui nous arrive comme les caractères imprimés sur la page d'un livre que nous lisons, en sachant bien qu'il s'y trouvait déjà avant que nous puissions les lire. Hein. Ça, c'est une idée totalement musulmane, d'inspiration en quelque sorte. Et l'Occident a eu contact avec cette idée d'un grand livre des destinées. Il a dialogué avec cette idée. Voltaire aborde cette idée dans Zadig, hein, et Diderot dans Jacques le Fataliste. Vous voyez que les cultures ne sont pas étanches, elles peuvent s'interpénétrer. Mais il est intéressant de voir comment l'esprit occidental dialogue avec le livre de Job. Il admet peut-être la soumission, mais il n'admet pas la résignation. Car la sensibilité continue de se révolter, même si la raison admet le sacrifice de l'esprit, de l'intelligence, le sacrificium intellectus. Hein. Par exemple, Victor Hugo, ayant perdu sa fille Léopoldine, se trouve exactement dans la situation de Job. Avi Le Quier, dans Les Contemplations, semble tout entier un commentaire du livre de Job. Mais Hugo dit très bien « Et mon cœur est soumis, mais n'est pas résigné ». Voilà, il y a soumission, mais il n'y a pas résignation. Parce que l'Occident reste tragique et tourmenté. Une soumission inconditionnelle à un Dieu incompréhensible lui répugne. Et le rationalisme occidental s'insurge périodiquement contre cette attitude. À supposer que Dieu ait des desseins impénétrables pour l'homme, pourquoi fait-il par exemple mourir des enfants innocents? Voici ce qu'on lit dans Zadig de Voltaire. Hein. Zadig voit un vieillard qui représente la sagesse qui tue, qui noie un petit enfant. Enfant, Zadig ne comprend pas, le vieillard lui dit, le sage lui dit, mais il était dans le destin de cet enfant d'assassiner ses parents, etc. Alors voici ce que dit Zadig, qui te l'a dit barbare, et même quand tu aurais lu cet événement dans ton livre des destinées, t'est-il permis de noyer un enfant qui ne t'a point fait de mal? Vous voyez, l'Occident répugne à cette soumission absolue. Hein. Et dans La Peste de Camus, le père Panelou incarne justement l'attitude religieuse de soumission. Il dit « Peut-être devons-nous aimer ce que nous ne pouvons pas comprendre. » Il s'agit d'un petit enfant qui est mort à cause de la peste. Hein. Mais le docteur lui répond « Non, je me fais une autre idée de l'amour et je refuserai jusqu'à ma mort d'aimer cette création où des enfants sont torturés. » Donc Rieu incarne justement l'attitude de Camus lui-même. Hein. Dostoïevski fait dire à Ivan Karamazov, dans Les Frères Karamazov, que si le prix à payer pour goûter l'harmonie du monde est la souffrance d'un seul enfant, alors le prix est trop cher. Donc Ivan rend son billet, je rends mon billet. Si on prend le parti de raisonner, on peut essayer évidemment de justifier l'injustice du mal et de la souffrance en y voyant un aiguillon de l'homme, un élément dont l'utilité nous est encore inconnue. C'est ce que font toutes les théodicées. Ou bien au contraire, renvoie dans le mal et la souffrance une preuve soit de la méchanceté, soit de l'impuissance de Dieu, que l'on congédie de cette façon. Cet athéisme rationaliste était déjà celui d'Épicure, où Dieu a pu supprimer le mal et il ne l'a pas voulu, dans ce cas-là, il est méchant, ou Dieu a voulu supprimer le mal, mais il ne l'a pas pu, et dans ce cas-là, il est impuissant, hein. Ou bien Dieu n'a ni pu ni voulu supprimer le mal, et dans ce cas-là, il est les deux à la fois, méchant et impuissant, ou bien s'il a pu et voulu supprimer le mal, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Vous voyez, ça c'est un parable, c'est Épicure qui raisonne ainsi, les quatre hypothèses touchant le mal et l'existence de Dieu. L'Occident, en tout cas, raisonne toujours. Il est le seul, par exemple, à avoir voulu prouver l'existence de Dieu, alors que d'autres cultures se contentent de l'éprouver. Mais est-ce qu'il faut toujours raisonner? J'ai cité la phrase « Si Deus est unde malum »,« Si Dieu existe, d'où vient le mal ?» Bon, Saint Augustin aurait dit cette phrase, hein. Mais Tertullien disait aussi « Je crois parce que c'est absurde, credo quia absurdum ». Voilà, alors après toutes ces considérations théologiques, hein, je vais vous laisser et je vous retrouverai la semaine prochaine pour continuer cette réflexion. Nous parlerons du christianisme et de l'idée d'incarnation de Dieu, sur lesquelles il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Donc passez une bonne semaine, et bien au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.